dans un des éléments que nous avons pour réfléchir à une éventuelle organisation, les Kohanim se limitent uniquement aux affaires du temple, ou est-ce qu'ils peuvent interférer à un moment donné? C'est une question que je me pose là.
C'est une excellente question, parce que justement, dans cette Mishnah, il apparaît aussi que les Kohanim ont un rapport ambigu avec la justice du Bet-Din.
À la fois, ils peuvent siéger au Bet-Din, et ce serait même une mitzvah de confier des Kohanim dans le Bet-Din, et en même temps, on a l'impression que les sages de Hagmara, que Chazal, fait en sorte d'évincer les Kohanim de la société juive, de les rendre non nécessaires. Au sens, après la destruction du temple, ce qui devient nécessaire, ce sont les batédinim, c'est l'étude de la Torah, et des institutions comme le roi et les Kohanim semblent non nécessaires. Donc il faudrait creuser pour voir dans quelle mesure Chazal invente, change l'essentiel en accessoire. Comment ils rendent les Kohanim accessoires. Voilà, il s'avère que les Kohanim ne s'occupent pas que des affaires du temple, ils s'occupent aussi d'autres choses. D'ailleurs, il y a des Kohanim qui sont aussi rois, donc il y a des confusions comme ça entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Mais il semble que le projet des Chachamim, c'est de mettre les Kohanim en dehors, de les écarter de l'équation.
Avant de poser ma question, juste revenir sur le point là que tu viens d'évoquer. Disons que le problème apparaît pas une fois que les Kohanim siègent au tribunal rabbinique, puisque somme toute c'est la normalité des choses, il n'y a pas les rabbins d'un côté et puis le peuple de l'autre. Il y a les sages, qu'ils soient Kohanim ou pas. Mais par contre, le problème arrive précisément dans le cas d'Yanaï, qui était un asmonéen, c'est Jean Hircan, Yochanan ben Orkenos. Et en l'occurrence, le problème, c'est quand on a les Asmonéens, c'est-à-dire quand on les Rachmonéens, c'est-à-dire quand on a un roi qui cumule à la fois les fonctions de roi et les fonctions de Kehuna. Et il se trouve alors que le problème, c'est que dans ce cas-là, la Kehuna est réduite à une affaire politique. Ce point, je ne sais pas si tu es d'accord avec.
J'ai l'impression que. Enfin, j'entends ton point, c'est très intéressant. Et il faudrait vraiment poser. Mais j'ai l'impression ici, ce qui est en jeu dans cette Mishnah et dans cette Gemara, c'est de voir qu'en fait le roi a potentiellement un pouvoir illimité et qu'il peut en abuser. Qu'il soit aussi Cohen ou pas, c'est finalement anecdotique. Mais qu'en fait, voilà, il a la possibilité d'abuser de son pouvoir.
Justement, c'est tout sauf anecdotique. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai sorti tout à l'heure Sanhedrin quand tu l'as évoqué, parce que regarde ça. C'est tout sauf anecdotique. Parce que ce que répond immédiatement la Gemara à la Mishnah, l'Odan Velodaninoto, il ne juge pas et on ne le juge pas, c'est précisément et uniquement pour ce que tu as appelé Malchut Israël et pas pour Malchut Bet David, c'est-à-dire que c'est précisément pour ceux qui se retrouvent avec le pouvoir, avec un pouvoir entre les mains, qui est un pouvoir de circonstance et c'est tout. Et donc dans ce cas-là, effectivement, de fait, quelqu'un qui a suffisamment qui a suffisamment abusé du système social pour se retrouver roi alors qu'il n'a rien à y faire, de fait a un pouvoir illimité. Et donc de fait, c'est très dangereux s'il se met à juger ou si nous, on se met à le juger. Mais ce n'est pas le cas du tout pour Malchut Bet David. Et ça, on le voit déjà dans le Tanakh, au moment où David, et c'est sur ça que les commentateurs réagissent, d'ailleurs je me demande même si Laura ne le cite pas dans ses drachot, quand David reçoit un converti à Malicite, qui arrive en lui disant j'ai tué le roi Shaoul. Et sur ce, que décide de faire David? Ordonner de le tuer. Donc là, il y a qu'on se place, du coup, disons, si on se place selon la stricte loi, un Bédine n'aurait jamais pu le tuer dans un cas pareil, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de témoin, ensuite parce qu'on ne tue pas quelqu'un sur ses propres propos, comme il dit Rambam, parce qu'on a peur que ce soit juste une façon de se suicider, mais c'est aussi le cas, on ne le frappe pas non plus, alors qu'il n'y a pas le risque de se suicider. Mais de toute façon, on ne juge pas quelqu'un sur le propre témoignage qu'il amène de lui-même. Adam Asim et Atzmo Racha. Mais s'il le fait, là, dans ce cas-là, c'est parce que il ne. Pardon, et je rajoute encore un point, c'est parce qu'en plus, cet Amalécite, il y avait même toutes les chances de penser qu'il ne l'a pas tué, du moins du point de vue de David, parce que s'il vient devant David, c'est précisément pour dire, vois-tu, j'ai tué ton ennemi, je pense que nous pouvons dire que nous sommes amis maintenant, est-ce qu'il y a une place de ministre de libre ? Donc, c'est-à-dire que là, on avait toutes les raisons de penser qu'effectivement, c'était un menteur, et malgré tout, il a décidé de le tuer. Alors, pourquoi ? Ben, précisément pour pas que... Alors, c'est ça qui est bien avec Malchut Beth David, c'est qu'on peut jouer sur les deux plans. Soit on dit, parce que d'un point de vue social, il ne faut pas que les gens pensent qu'il est possible, qu'il est normal, qu'il est souhaitable, qu'il est envisageable de... Alors là, désolé pour le gallicisme, mais de jeter la main sur un roi d'Israël, premièrement. Mais on peut aussi le voir du côté religieux. C'est pour ça que ça marche bien avec David. Parce qu'on peut aussi voir du côté religieux de dire qu'il y a un problème pour la contenance alors, sociale, religieuse, ou ce qu'on appelait tout à l'heure la shrina, oui, de penser qu'il soit possible de tuer des gens. Donc on peut le prendre des deux côtés. Voilà. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes interprètent par exemple cet épisode en disant ce qu'a fait David, c'est Makin Vonchin chez Lominadine. C'est-à-dire il a fait ce qu'un Bedin aurait le droit de faire. C'est-à-dire, il y a plein d'exemples à ça, c'est-à-dire de décider de déroger exceptionnellement aux conditions restrictives de la peine de mort ou des peines de coups, et décider de les administrer même si toutes les conditions ne sont pas réunies, parce qu'ils estiment que l'intégrité religieuse de la société est menacée. Sur ça, un bémol, et après je rends la parole, c'est que quand le Beit Din décide de faire ça, « Makin Vochin Shelumi Nadine », c'est une oracha et c'est pas le fonctionnement normal du Beit Din. C'est quelque chose de nécessaire pour l'instant et uniquement si c'est ressenti comme une infraction par la société autour, premièrement. Et deuxièmement, disons, en revanche, quand le roi fait ça, c'est dans le fonctionnement, c'est-à-dire c'est dans son rôle normal de roi. C'est-à-dire le fonctionnement normal d'un roi, c'est de décréter des lois de ce que les sages n'ont pas décrété eux-mêmes. Voilà, c'était les remarques que je voulais apporter.
Merci beaucoup. Très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Lorane. Hein. Lorane dit bien que le roi vient compléter l'insuffisance de la loi de la Torah à réguler la société. Mais c'est vrai qu'on peut pousser un peu plus loin son raisonnement et se poser la question dans quelle mesure la loi de la Torah est efficace, opérante, ou au contraire, est-ce que finalement, elle n'a pas du tout vocation à réguler, à avoir un impact dans la société, est-ce que c'est une loi virtuelle ? C'est vraiment une question qu'on se pose. C'est une question qui convient de travailler, il faut démontrer ce point, mais il semblerait que selon Oran, la loi juive est une loi, alors est-ce que c'est une loi fictive ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une loi qui est inopérante, mais par nature, en fait. Voilà.
Rosie. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu l'épisode de Batsheva, mais je veux dire, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit après tout ce que vous nous avez si bien exposé. Voilà, il abuse de son pouvoir par amour. Alors, comment vous l'expliquez dans le contexte de ce que vous nous avez exposé ? Et pourquoi c'est là ? Pourquoi le récit ? Pourquoi il est là, ce récit ?
Comment l'expliquer ? Pourquoi c'est là ? Alors, j'ai pas forcément la réponse. J'ai pas forcément la réponse, c'est des bonnes questions, mais je pense que voilà, c'est un exemple qui nous montre que finalement, Malchut Beth David semble être un concept plus qu'une réalité. Qu'en fait, à n'importe quel moment, même David peut basculer dans le concept de Malchut Israël, qui peut abuser de son pouvoir, voilà, peut-être. C'est des polarités qui fluctuent et qui dépendent pas de la personne incarnée, voilà, peut-être. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant.
Oui, merci Samuel de votre exposé me replonge dans un travail déjà un peu ancien et m'intéresse énormément. Alors, ce qui me frappe dans ce que vous avez développé, c'est que sur la phrase « Tu établiras un roi ». Enfin, la plupart des spécialistes, on va dire, ont constaté que probablement que c'était une manière de réinscrire l'anticipation de ce qui va se passer dans le livre de Samuel comme quelque chose de déjà annoncé, puisque on n'en parle plus jamais jusqu'au moment où revient l'épisode Samuel. C'était un mouvement intéressant de voir que c'est pas pour comment dire, de voir qu'il y a là probablement des couches et pourquoi c'est important pour la suite de ce que je vais dire. C'est alors dans Samuel, il y a aussi une ambiguïté sur la raison pour laquelle le peuple demande un roi. Il y a deux expressions, vous en avez évoqué une, et c'est normal que vous choisissiez celle-là, donc pour nous juger, et là tout le monde se demande, mais en fait, pour nous juger, il y aura des juges qui vont, effectivement, il y a des juges, il y a déjà des juges, donc pourquoi est-ce que le peuple réclame un... Donc, on écarte un peu, enfin, il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop quoi en faire, et puis il y a une deuxième formulation de la réclamation, c'est pour mener nos guerres. Donc c'est celle-là qui m'a intéressé et j'ai laissé en friche l'autre, et c'est vous qui la reprenez. Et donc, voilà, il y a une double ambiguïté. Pour mener les guerres est très ambigu, les juges menaient des guerres aussi. Les juges, d'ailleurs, les juges ne faisaient presque que ça, si j'ai bien compris, si mes souvenirs sont bons. Les juges ne jugeaient pas, mais en même temps, ils s'appellent Shoftim. Donc voilà, c'est ça. Alors le deuxième, donc à partir du commentaire de Nissim de Gérone, je trouve que la cette espèce de dualité qu'il fait ressortir, mais c'est très tardif. C'est très tardif, on est au Moyen Âge. Entre un roi d'Israël qui, lui, est une figure du roi, qui est ce roi dont que Dieu évoque quand il met en garde Israël quant à sa volonté d'avoir un roi, parce qu'il annonce par avance, il va vous spolier, il va vous voler, il va prendre vos femmes comme servantes, il va... Voilà, il va vous surtaxer, en fait, il concède le roi, et en même temps, dans un même mouvement, il dit, mesurez bien ce que vous êtes en train de me demander. Alors, il y a après, effectivement, deux personnages, qui est le roi d'Israël et le roi David, mais la question quand même que je me pose, et je me suis tout, c'est quand même... Il n'y a pas de roi d'Israël. Je veux dire, le roi d'Israël, c'est quand même le grand absent. C'est-à-dire, à partir de la disparition, à partir de l'exil, on va dire. Il y a un Rej Galouta, il y a toutes sortes de choses, il faudrait regarder de plus près, mais il n'y a plus de roi d'Israël. Et donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi s'intéresser au roi quand il n'y en a pas? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au roi quand il n'y en a pas? Naturellement, Maïmonide peut faire son commentaire sur les guerres justes, les guerres pas justes, mais que depuis quand est-ce qu'Israël n'a pas mené de guerre? Ça semble complètement non pertinent dans la situation de l'exil.
C'est la Mishnah qui le dit,
oui.
Le Danglo Daninoto. Donc
oui.
On est a priori même avant la destruction du deuxième.
Voilà, on est dans une période intermédiaire, c'est vrai, on est dans une période intermédiaire. Maintenant, Rann, il fait un pas de plus, et c'est pour ça qu'il faut aller voir un médiéviste, parce que les médiévistes mettent souvent les pieds dans le plat. Hein. Ils essaient de clarifier des choses qui n'étaient pas très claires. Donc, une hypothèse, c'est vraiment une hypothèse, c'est que le personnage conceptuel du roi d'Israël, en tant qu'il est distingué de l'autre personnage conceptuel qui est le roi ou le royaume de David, c'est parce que le roi d'Israël, il est actuel, dans le sens où il existe des rois et ils n'ont rien à voir avec la Torah. Il existe des rois, parce que les Juifs, il y a des rois. Tout le long de l'Église, il y a des rois. Donc c'est une manière de cerner la légitimité de la figure du roi qui peut abuser, qui peut surtaxer, mais avec lesquels les Juifs doivent entretenir un rapport et qui a sa légitimité. Après, pourquoi il a sa légitimité? On sait très bien que, d'abord, il a sa légitimité parce qu'il frappe monnaie. Et d'où vient cette légitimité? Du fait que les Juifs utilisent cette monnaie et la lui concèdent de facto, etc. Toutes ces discussions, voilà. Et puis, il y a l'autre roi qui n'est pas actuel, qui est virtuel, et qui, en fait, qui incarne l'espérance messianique. C'est pour ça que la lignée de David est associée à l'espérance messianique, c'est-à-dire dans une situation où il n'y a plus de séparation entre la fonction, on va dire, obsienne et la fonction de l'adhésion libre à la Torah, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de shotrim et qu'il ne nécessite pas de répression et qu'il ne nécessite pas d'appareil de contraintes. Donc, en fait, je pense que toutes ces distinctions sont liées au fait qu'il n'y a pas de roi d'Israël. Je pense que ça doit être le premier mouvement, et comprendre après les commentaires sur le fond de cette préoccupation qui fait que ce qu'on a devant nous, ce sont des rois, et qu'eux ressemblent au roi d'Israël. Mais pour qu'ils ressemblent au roi d'Israël, il faut les distinguer, on va dire, du vrai roi d'Israël, c'est-à-dire ce qu'on se figure comme étant la réalisation la plus haute.
Merci beaucoup, c'est très intéressant justement, de voir comme une progression, c'est-à-dire il n'y a pas de roi d'Israël. On assimile la figure du roi d'Israël à toute puissance qui incarne, en fait, qui partage la malroute avec Dieu.
Est-ce qu'elle est à l'abri? Est à l'abri d'une contamination avec la question de la loi, de la Torah.
Et garder le point de fuite Malchut Bet David. Ça permet effectivement de... En fait, c'est ça. Du coup, c'est pas deux polarités, Malchut Bet David, Malchut Israël. C'est un état de fait, Malchut Israël, qui est dans un certain sens virtuel, puisqu'il n'y a pas de Malchut Israël, et Malchut Bet David... point de fuite hypothétique.
C'est ça.
Merci, Eva.
Merci beaucoup pour votre intervention et aussi pour le questionnement et les précisions apportées par Danny Trump. Mais je ne suis pas tout à fait sûre d'être d'accord avec sa vision du roi. Et je me réfère à ce que vous avez dit sur un point qui m'intéresse et qui nous intéresse dans ce séminaire, c'est la justification de l'exil comme étant une sorte de scission du Beddin, en fait, hein, des juges, par rapport au pouvoir coercitif du roi et à l'excès de pouvoir. Et donc, on aurait là... disons, un positionnement, si on devait projeter ça sur ce qui se passe, par exemple, on pourrait avoir là un positionnement des ultra-orthodoxes qui font scission précisément avec le roi, c'est-à-dire le gouvernement, ce qui existe comme gouvernement, ce qui incarne en ce moment, ou quand Israël est souverain, ce qui incarne justement le roi.
Le Ran continue d'expliquer son argumentaire et à un moment dit que pour ceux qui diraient on a déjà vu des exemples où le Beddin applique vraiment des punitions frappe des gens, etc. Comment justifier ça? Et il répond, alors ça s'explique, dans la configuration, il n'y a pas droit. S'il n'y a pas droit, alors le Beddin incarne, c'est pas les deux corps du roi, mais c'est les deux corps du Beddin, il incarne à la fois le rôle de juge de la Torah et le rôle de roi. Et donc, quand il punit en tant que roi, en tant qu'il a revêtu la couronne du roi, et pas Beddin. Maintenant, donc, c'est possible que si des personnes revendiquent de faire appliquer la loi de la Torah aujourd'hui, ils continuent d'incarner ce double couronnement, du couronnement du roi et du Beddin. Mais, en tout cas, selon le RAN, c'est... Ce ne serait pas possible pour un Beddin d'avoir des revendications politiques, d'avoir un mot à dire dans la pacification de la société et de vouloir faire appliquer les lois de la Torah à tous. Ça semble pas possible, pas plus que pas possible, ce serait même pas souhaitable en fait, ce serait pas.
Merci beaucoup pour cet exposé. Il y a un point qui me semble devoir être rattaché à tout ça, qui m'a sauté aux yeux, c'est... Tu as parlé de polysémie du terme Meler, mais en fait, il y a un autre terme qui est utilisé dans la Torah pour dire le roi, mais elle le dit de manière un peu implicite, c'est Nassi. Et la Gemara nous dira dans Orayot, Nassi c'est Meler. Et si on relie à ça, c'est d'ailleurs assez marrant, je viens de vérifier... c'est que la Mishnah là-bas au nom de Rabbi Akiva dira rattachera à justement l'Odan et le Danimoto, elle va faire le lien entre les deux. La Gemara un peu plus loin dans page 11, elle va aussi faire le lien entre la question de savoir là-bas il y a, t'as parlé de non, d'absence de responsabilité du roi d'une certaine manière. En fait c'est pas tout à fait exact parce que dans ce contexte-là précisément la Torah attribue des responsabilités spécifiques qui vont se manifester par un korban spécifique à certaines occasions pour le roi. Donc il n'est pas irresponsable, il est responsable sur un autre registre. Envers qui on peut réfléchir? Est-ce que le korban c'est une responsabilité envers Hachem? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui affleure à ce moment-là, qui me semble important, d'autant plus que la Gemara d'Afiud Aleph, elle va dire exactement ça, puisqu'elle va poser la question de savoir est-ce que... on va définir, on va dire, le korban en question comme ne pouvant être apporté que par celui qui n'a que Dieu au-dessus de lui, dira la Gemara. Et elle pose la question de savoir est-ce que les rois de la royauté de David et les rois d'Israël, lorsqu'ils sont coexistants, peuvent tous les deux apporter. Et la Gemara dira oui. Donc je pense que c'est un point qui doit être creusé ici, qui pourrait être intéressant. Aussi. Pardon ?
Et le roi étranger aussi.
Ça, je ne me rappelais pas de ça. Mais voilà. Peut-être c'est un point, je pense, qui pourrait être complémentaire avec ce sujet.
C'est vrai que c'est très intéressant parce que, effectivement, c'est à partir de David que le terme Meler, enfin, David Meler, avant, j'avoue qu'il ne s'appelait pas Meler. Donc, effectivement, c'est un terme qui est assez spécifique, qui ne se retrouve pas partout. Et pour la question du Corban, c'est très intéressant parce que j'avais envie de regarder. Il faut creuser ce point, merci beaucoup, parce que je pense que la Gemara Orayot, en fait, parle des quatre instances de la société juive, mais en miroir, ça veut dire, elle parle du roi, du Kohen Gadol, du prophète et des juges, vis-à-vis de leurs corbanes et des corbanotes qu'ils doivent apporter. Et ce qui semble nébuleux quand il s'agit de définir qu'est-ce qu'un roi, qu'est-ce qu'un Kohen Gadol, devient un peu plus précis quand il s'agit des corbanotes, parce que chaque corban devient différent, et chaque corban est différent. Donc il y a un travail à mener très intéressant de comprendre comment la différence dans les corbanotes qui sont apportées révèle une différence aussi dans la fonction opérée par les juges. Merci beaucoup pour cette...
Je suis désolé, j'ai oublié quelques chevaliers aujourd'hui. C'est Jonathan Zribi qui nous rejoint.
Merci beaucoup pour cette intervention que moi j'ai trouvée passionnante. Surtout, un thème qui est passionnant, je trouve, que tu as abordé, c'est la question de l'effectivité du Din Torah, au final. Notamment quand tu as parlé de la distinction que fait le RAN entre ce que serait finalement un din Torah qui serait au fond un enseignement, mais qui n'a pas de portée pratique évidente, et d'un autre côté, le Meller qui serait là pour en quelque sorte compenser, et au contraire, qui aurait a priori tous les pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Et on voit bien que cette distinction, elle paraît très, très abstraite, et elle paraît très bizarre en pratique, parce que, sur quoi il se base, comment on dit si jamais... A priori, moi, j'aurais envie de dire que le din Torah, il est censé, même si on garde ce chilouk, le din Torah, il est censé infuser quelque part, c'est un enseignement, il est censé mener à une pratique, quand même, a priori, dans le judaïsme, et que donc, le roi, il est censé se baser un peu sur les enseignements de la Torah, pour savoir ce qu'il doit faire, quand bien même il s'appuierait pas sur un jugement d'un Beth Din en pratique. D'ailleurs, il doit toujours avoir une Torah avec lui, etc. Et donc ma question, voilà, c'était, est-ce que tu as réfléchi sur comment ces deux positions, ces deux points que distinguent, ces deux régimes en fait, que distingue le RAN, pouvaient s'articuler entre eux en pratique? Et notamment, je prends un exemple, si jamais la Torah n'a pas grand-chose à dire en fait, sur un sujet. Alors moi, il y a un truc qui m'a frappé depuis un certain temps, c'est par exemple en droit du travail. Il n'y a pas grand-chose, en fait, dans le chasse, en droit du travail. Il y a deux prakim dans Baba Metzia, et là-bas, on dit très souvent, on va comme le Minhag HaMinza. Donc, a priori, on laisse effectivement les coups des franches au Meller. Sauf qu'on voit bien que le monde du travail, c'est le lieu du conflit par excellence dans la société, en tout cas dans la société moderne. C'est un lieu de conflit permanent, il y a un lien de subordination de toute façon qui est déjà une source de conflit évidente, il y a des intérêts qui sont divergents entre un employeur et un salarié, un freelancer, que sais-je. Et donc dans ce cas-là, en fait, le roi, même en toute bonne foi, j'ai envie de dire, même s'il est je sais pas comment on dit, même s'il accepte ce relook du Rav Nissim de Gérone, comment il est censé, quoi, sur quoi il est censé s'appuyer pour fonder sa loi de manière juste, voilà. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ces relations entre les deux régimes?
C'est une excellente question. Ce que dit Laurent sur le din Torah comme un enseignement, c'est quelque chose qui se retrouve aussi chez d'autres commentateurs. Mais lui a une vision un peu plus radicale quand même, parce qu'il considère que ce serait presque que un enseignement. Maintenant, chez Maïmonide, au contraire, le roi, c'est l'optimus homo, c'est l'homme parfait qui est à la fois Navi, le roi, Tamit Raham. Et donc, c'est sûr que les lois du roi, selon Maïmonide, sont justes au sens et elles émanent de la Torah. Mais c'est une vision qui est très différente de celle du RAN. J'ai l'impression, mais il faudrait creuser. J'ai l'impression que quand Oran dit que la Torah, c'est une affaire de Mishpat Tzedek, j'ai l'impression qu'on pourrait traduire par les constitutions droites. Et en fait, la science des constitutions droites, c'est la philosophie politique. Donc peut-être que le Beth Din enseigne la philosophie politique, et ce serait sa fonction. Mais qu'il enseigne à qui veut bien l'entendre et qui veut bien mettre en pratique ses enseignements. Je ne sais pas si j'ai bien.
Oui, c'est juste pour ajouter, parce qu'est venue la question en pratique. Le droit du travail, donc c'est qu'est-ce qui se passe en pratique. Et on se demande pourquoi le RAN radicalise, le problème en séparant de manière plus ferme que l'ont fait d'autres, roi d'Israël, roi David. Peut-être une des sources intéressantes pour vous serait, parce que quand même la question qu'on se pose est la même, c'est-à-dire quand vous dites au début de votre exposé comment Chazal conçoit la société et la politique juive, mais il y a bien une société effective et une politique effective sans roi. Donc, et la question qui se pose là, c'est où trouver la source pour essayer de comprendre la compréhension que ces sociétés avaient d'elles-mêmes et ce qu'elles vont donc devoir produire pour vivre comme des sociétés juives, c'est-à-dire respectant la Torah, dans un environnement où elles n'ont aucune maîtrise sur leur destin politique. Et donc, je pense que peut-être qu'une des sources intéressantes, c'est d'aller voir les She'elot v'Tshuvot, des communautés, parce que dans ces sources-là, on trouve des problèmes pratiques relatifs à qu'est-ce que c'est qu'être le chef d'une communauté, quels sont ses pouvoirs, comment est-ce qu'on les lit, quelle est la... Comment ? Alors, voilà, c'est à mon avis, le travail sur la distinction des deux rois peut-être va se rejouer dans ces lieux-là, et donc c'est le corpus est, je pense, très grand. Et il faut aller le traquer un peu partout et le rechercher un peu partout. Mais là, il y a de la matière probablement pour nourrir le questionnement.
Tu veux dire ce qu'il dit en résumé ? Elisabeth,
non, Michel,
Nicolas. Y a-t-il une autre question? Une autre observation?
Oui. Oui, mais enfin, vous y avez fait allusion tout de suite, donc c'était une question que je me posais, c'est par rapport au modèle que vous construisez à partir du RAN. Ma question concerne le choix des sources. Pourquoi vous mettez de côté, pour penser la royauté, les Ilchot Melachim de Malmoni, qui sont le texte auquel on va peut-être un peu spontanément, comme l'a fait Danny Trom, et qui construit la royauté à partir de la question de la guerre, notamment de la guerre contre Amalek. C'est pour ça que ça fait sens, votre histoire du guerre amalécite qui tue Shaoul. Voilà, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de mettre en perspective ces deux conceptions de la royauté?
Ah oui, bien sûr, une possibilité de mettre en perspective la royauté.
Vraiment opposé. Maïmonide a une vision plus aristotélicienne du roi, qui est voilà, prince, philosophe, prophète. Et sur le rapport à la guerre, c'est une question qu'il faut que je creuse encore, mais qui est très intéressante, avec effectivement le roi comme guerrier, comme héros, qui partage cet attribut avec Dieu aussi. Mais il y a des éléments, je pense qu'on peut faire des rapprochements entre la vision du RAN et la division entre le caractère effectif, ou plutôt non effectif de la loi de la Torah, et le caractère coercitif de la loi du roi. On peut retrouver des choses, notamment dans, à la fin de Ilchot Avadim, où le Rambam nous dit qu'il est possible de... Il est possible de traiter son esclave cananéen avec dureté, possible de le maltraiter, de vraiment lui infliger des coups et des blessures. Et il précise que même si le din est comme ça, celui qui suit les voies de la Torah, de la Chorma, ne va jamais agir comme ça. Donc en fait, là, c'est intéressant parce qu'il va distinguer, c'est-à-dire le din de la Torah permet de réaliser des actions qui sont contraires à l'esprit de la Torah. C'est étonnant. Et donc, là-dessus, je pense qu'on peut s'appuyer notamment sur ces éléments-là pour trouver des points de rapprochement entre le RAN et Rambam, sur le fait que les actions que préconise la Torah ne sont pas forcément des actions vertueuses et droites lorsqu'elles sont réalisées effectivement, mais que, par contre, elles peuvent permettre un éveil des questionnements.
Cela dit, dans la vida, le roi n'a pas seulement...
pour devoir se promener avec une Torah à côté, il doit lire,
Alors, là aussi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur est-ce qu'il s'agit, parce que je crois qu'il y a une marque loquette, mais je maîtrise plus trop le sujet, mais je crois qu'il y a une marque loquette, est-ce que c'est vraiment un Sefer Torah ou il faut entendre Torah au sens aura un enseignement. Donc est-ce qu'il doit écrire un enseignement ou véritablement il doit écrire un Sefer Torah. Voilà, je sais pas. Donc il faudrait creuser sur ce.
De la lecture là, au moment des Shalosh Regalim.
Oui. Again. Ouais. Ça aussi, effectivement, il y a une grosse question à se poser, à savoir que signifie ce rituel du hacker.
Un rapport plus intime quand même avec la Torah que dans le modèle du Rav.
Mais c'est justement, précisément à ce moment, notamment à ce moment-là, c'est au moment de la lecture de la Torah dans les Shalosh Regalim, que ça accroche. En particulier là-bas, Sébastien Mara explicite, alors où je ne me rappelle plus, avec le roi Agrippas, qui était donc converti, donc, il n'a pas le droit d'être roi. Mekelev Achicha, parmi tes frères, et la mémoire est très difficile. Il dit, et de son temps, on voit que de son temps, la flatterie fleurissait, parce que pendant les fêtes de pèlerinage, le roi Agrippas a donc lu dans la Torah, il est arrivé à ce passage, Mekelev Achicha, il s'est mis à pleurer, parce qu'il s'est aperçu finalement que il avait une position de roi de fait, mais que de jury, il n'avait pas été où il était, et des sages sont venus et ont dit, ah, mais tu es notre frère. La Gemara est très sévère, parce qu'elle dit que c'est de la flatterie, c'est de la flagornerie, ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est intéressant, parce que c'est justement au moment où le roi lit aux autres que saute à la figure la contradiction entre le roi qui est à sa place, c'est-à-dire le roi de Beth David, qui est là de jury, et le roi qui est là de facto, comme c'est le cas pour les descendants des Asmonéens ou des Iduméens dans le cas de Agrippas.
Dans le modèle, disons Esther semble s'arroger le pouvoir d'enfreindre la loi. Je crois que l'expression c'est Vayavor al. Elle passe par-dessus la loi. On peut dire aussi qu'elle la suspend, et c'est une suspension qui est purement temporaire, comme vous l'avez évoqué à propos de ce que peut faire le roi d'Israël, c'est-à-dire un mal nécessaire, qui ne peut rien ajouter, rien retrancher, mais il peut quand même faire quelque chose, il peut enfreindre pour des raisons de circonstances, Zman. Est-ce qu'il y a des cas dans l'histoire des Juifs où un chef de communauté, pour des raisons internes, suspend la loi ? Certainement qu'il n'ajoute ni ne retranche rien, mais est-ce qu'il peut lui arriver de suspendre la loi pour des raisons externes ? C'est sûr que oui, c'est certain. Et le modèle Esther sert à ça. Mais est-ce qu'il peut le faire pour des raisons internes ? Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Des traîtres, des questions de trahison, des questions de malchanim, tout un ensemble. Ça aussi, je pense que c'est des choses qui peuvent ressortir dans les Sheelot Vetchuvot. Parce qu'à ce moment-là, roi d'Israël serait un pouvoir interne dirigé, donc un pouvoir dirigé vers l'intérieur d'une communauté sur laquelle il a autorité.
Non, en effet, c'est une très bonne remarque. Est-ce que les cas de suspension temporaire chez le roi, on retrouve ça chez Nevi'im et dans la Gemara, surtout chez les prophètes. Ça s'appelle Oracha, ce nom n'est pas un peu. Mais c'est vrai que chez les rois, c'est une bonne question. Moi, il y a un exemple qui me vient en tête, mais ici, je pense que l'expert, c'est plutôt David Salmon. Mais c'est des cas en exil où des chefs de communauté, donc, qui sont censés incarner enfin, justement, qui ont ces doubles couronnes à la fois de Meller et de Beddin, mmh. vont suspendre la loi, ça veut dire parce que d'après la Torah, ils n'auraient pas été capables de commettre de faire une action, et pourtant ils le font. Je pense dans les shoots à Roche, justement dans la question chez l'hôtel de Chouette du Roche, une anecdote où dans sa ville, il y a une prostituée qui fait des ravages dans sa ville, et ça pose une question sur son action, et il décide d'aller la mutiler. Voilà. Donc c'est comme pour finalement châtier cette personne. Donc visiblement pas sur le plan de la Torah, parce qu'il n'en aurait pas la possibilité, oui. ni le droit, mais il s'arrogerait le pouvoir du roi, en faisant ça.
De l'ordre public.
Exactement.
De rétablissement de l'ordre public. Et c'est des sources comme ça qu'il faut trouver.
Est-ce que je peux apporter un élément là-dessus ? Peut-être, si je me permets, juste deux bémols. D'abord, pour la question sur Esther. Bon, comme l'a fait remarquer Samuel, enfin, je ne pense pas qu'il faut voir Esther en tant que roi d'Israël
non.
ou en tant que reine d'Israël. C'est-à-dire, à mon avis... Je veux dire, la question est complètement séparée. Il y a deux questions sur Esther. Pourquoi elle s'est permise d'aller voir le roi ? Une fois, elle était déjà capturée, etc. Mais il y a une des fois où elle est allée voir le roi, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est... Alors qu'elle sait très bien qu'il aurait revoulu avoir une relation avec elle, etc. Donc toutes les questions alachiques qui se posent. Et la deuxième question, c'est comment elle a pu décréter un jeûne de 3 jours et donc annuler le seder de Pessah. Mais dans les deux cas, vous verrez que ce sont des questions d'abord qui sont religieuses, que son oncle, cousin, son père adoptif, mari, selon les Midrashim, c'est Mordechai qui était lui-même chef du Sanhedrin. Donc elle a toujours fait avec assentiment du Sanhedrin. Et elle était elle-même prophétesse. Donc si vous voulez, vous avez tous les ingrédients pour que... En fait, il n'y ait pas besoin de droit pour annuler ce qui a eu besoin d'annuler. Il suffit d'avoir même pas un Sanhedrin, il suffit d'avoir un Beddin qui a le droit, dans un cas de ce qui s'appelle Migdar Milta, c'est-à-dire on peut voir ça comme un danger vital pour tout le peuple, d'annuler très provisoirement, très ponctuellement, soit une mitzvah positive, soit même une mitzvah négative. Là, dans notre cas, on a les deux exemples. C'est aussi ce qui se passe là-bas dans Shouta Roche. Et c'est pas le seul exemple hein, qu'il y a eu. À nouveau, c'est le Beddin lui-même. Et le Beddin le fait parce que Makin Vonchin Shelominadin. Parce que le Beddin a le droit de prendre en main la loi, deuxième gallicisme, et de décider, pas pour les générations, pas pour leur génération, mais uniquement pour un fait devant leurs yeux, de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire en temps réel. Et c'est le cas de celui qui est monté sur un cheval à Shabbat dans la Gemara, c'est le cas du couple qui a une relation en public sous un figuier, c'est le cas de celui qui s'est mis à critiquer le concept même de Netilat Yadayim en disant soit la personne est pure, soit elle est impure, mais ça veut dire que ses mains sont impures. C'est le cas dans Sanhedrin, chez nous aussi, de celui qui est... celui qui était soupçonné de meurtre. Et le Beddin a voulu katlaine, lui retirer les yeux. Alors certains traduisent en disant le tuer, d'autres disent non, vraiment le mutiler. C'est le cas au début de Ktuvot. Rav Nachman qui a frappé un jeune homme qui est venu en lui disant Petar Patuach Matsati, en disant et qu'est-ce t'en sais ? Donc c'est un moyen de comparaison. Et donc il a frappé. Et ça, mais c'est quantité, mais c'est sur ce point-là que j'insistais, c'est qu'à chaque fois, ça relève d'une... Alors, je vais le dire en hébreu, je vais essayer de le traduire en français, d'une pirtsa bechomatadat, donc alors d'une fracture dans les murailles de la religion. Alors, celui qui a une meilleure traduction, je prends, parce que là, je nage. Quelque chose, mais qui est vu par la société en tant que telle, parce que sinon elle ne le ferait pas, qui est vu comme une infraction dans la loi, mais au sens de la loi religieuse. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ce soit le statut de roi qui joue là-dedans. Je pense que c'est surtout le pouvoir qui, pour le coup, est vraiment illimité, qui est donné au Beddin.
Ce n'est pas le statut du roi, c'est le problème de l'absence du roi qui est travaillé chaque fois. Et que Mordechai soit du Sanhedrin, ça ne revient quand même pas dans la majorité des commentaires.
Mais retirons-le.
Parce que ça, naturellement, ce sont des manières.
Retirons-le.
C'est la manière dont le commentaire s'arrange avec ce phénomène, quand même.
Non, mais retirons-le. D'accord. Il suffit. Ce que je dis juste, c'est qu'il suffit que le Sanhédrin soit l'affirme. Et dans le cas d'une prophétesse, il y a même besoin du Sanhédrin. C'est Eliyahu Be'er HaKarmel, ce sont toutes ces choses-là.
Le statut de prophétesse d'Esther ?
Oui.
C'est pas si évident que ça, que dans les commentaires.
C'est une mara dans Megillah.
Mais oui, il y a une mara, il y en a d'autres qui disent d'autres choses. Je veux dire, les statues sont flottants. Il est flottant. En même temps, on peut choisir ou accentuer l'un ou l'autre, c'est vrai. Mais le statut est très flottant.
Si vous avez connaissance d'un commentaire qui est dit explicitement qu'Esther n'était pas prophétesse, ou dont on peut en déduire, je suis preneur.
Non, il ne dit pas explicitement, mais il ne dit pas qu'elle l'est. Il nous dit qu'il y en a beaucoup. Je veux dire, l'associer Esther au statut de prophète, ce n'est pas la chose la plus régulière que j'ai constatée. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord, mais en même temps, il faut essayer de revenir au problème qui se pose à eux. Au problème qui se pose. Le commentaire, c'est une production face à un problème, et donc on ne peut pas lire le commentaire détaché de la pratique qui se pose. C'est là-dessus que je voudrais simplement insister. Ça n'enlève rien à ce que vous dites, ça déplace simplement l'interrogation.
Alors, tout à fait. C'est vrai que c'est un point de vue qui est vraiment intéressant à aborder, celui de, non pas du statut du roi, mais son absence, et en exil, voir comment, à la fois de manière pratique, les deux couronnes se confondent, et comment ce que c'est qu'être un chef de communauté en pratique.
Et dans les situations, par exemple, de trahison interne, qui est une des choses les plus graves, parce que la trahison interne, la trahison met en danger toute la communauté. Quelqu'un qui va parler à l'extérieur.
Le Mosser,
tout un ensemble de situations. Et bien, la plupart des communautés étaient obligées d'en passer par les tribunaux du pays ou par le roi, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'appliquer la peine de mort. Donc, il y a là un circuit complexe qui est dans la tête des commentateurs et certainement du RAN.
En Europe.
Je parle de là en Europe, c'est absolument. Mais RAN, il est à Gérone. Il est en pays chrétien.
L'absence de peine de mort, elle est propre à l'Europe, elle est propre à certains continents, mais elle n'est pas forcément.
En tous les cas, les communautés devaient avoir ou bien le donner pour que la peine de mort soit appliquée par le roi, ou bien avoir la permission d'appliquer la sentence. Donc, c'est une situation quand même très particulière.
J'ose revenir sur un point qui est un peu connexe de ce qui vient d'être dit. C'est la question de la fonction du roi en tant que régulateur de la société. Il me semble quand même que le Bedin a aussi cette fonction de manière très très récurrente, parce que à de multiples endroits dans le Talmud, on va voir des choses comme Tikkun Olam dans Gittin, la question du Prousboul lorsqu'on a le prêt à intérêt pose des problématiques, la Takanat Hashavim, c'est-à-dire que lorsque les voleurs vont être empêchés de se repentir parce que leur repentir leur coûterait trop, les sages vont faire entre guillemets, vont poser des limites au droit à réparation de la Torah. Donc il me semble que précisément là-bas on est sur de la gestion de la société, et peut-être faudrait réfléchir à comment ça s'articule, comment chacun va trouver sa place dans ce rôle-là.
Peut-être que la loi de la Torah peut, dans une certaine manière, contribuer à ce qu'une société se tienne, mais selon lui, c'est insuffisant. Et ce qui me semble, c'est qu'à la suite de son développement, on peut dire que non seulement c'est insuffisant, mais en plus de ça, c'est deux domaines séparés, c'est-à-dire qu'il y aurait les lois de la Torah qui n'ont pas vocation à réguler la société, mais qui, par accident, peuvent réguler une partie, peut-être, de la société, mais en tout cas, qui sont absolument pas suffisantes pour que ça tienne. Et oui, si ça fonctionne, ce serait par accident. Il faudrait savoir, est-ce que dans le cas d'un tikkun olam pros bol, est-ce que c'est les chachamim qui parlent en tant que bet din ou en tant que roi, ouais, en tant que autorité politique, quoi.
D'abord, merci pour l'exposé qui était extrêmement intéressant. Je voulais rebondir sur ce que Danny Trump disait sur l'ancrage nécessaire de... Enfin, la prise en compte nécessaire de l'ancrage du commentaire dans son contexte. Et je me demandais... Alors, je sors de la réflexion à proprement parler sur le commentaire d'Uran, mais ça me fait me demander... Enfin, ça me conduit à me demander s'il y a des commentaires... qui ont été rédigés postérieurement à la création de l'État d'Israël autour de ces questions. Et je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui entre dans le cadre de ton étude, donc ça m'intéresserait de savoir ça.
Poser ces questions, notamment par rapport à l'État d'Israël, notamment Rav Kook, je crois qu'il a vraiment une vision sur les institutions, la constitution de la société juive. Donc il faut creuser dans cette direction. Et non, effectivement, c'est. Je pense qu'il y a ça. Il y avait quelque chose d'autre que j'avais en tête, mais ça m'a échappé tout de suite. Mais.
Tous les cas, Samuel, la distinction roi d'Israël, roi de David, continue d'être pertinente dans le cadre de l'État d'Israël. Elle ne bouge pas. Ce qui veut dire que soit la relation avec le gouvernement est une relation avec n'importe quel roi étranger, au mieux avec un roi d'Israël, c'est-à-dire, c'est quand même pas grand-chose, c'est-à-dire celui qui exerce, disons, l'ordre minimal qui doit régner dans une société. C'est ça la distance des Haredim aux institutions de l'État. C'est dans la ligne, dans la même lignée.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est qu'en fait...
Comme exception.
Il y a un auteur donc qui s'appelle Ahadam qui justement a beaucoup qui a vraiment cherché à faire des connexions et des liens entre pouvoir politique et relations au corpus de la Torah, pas pour des raisons religieuses mais pour des raisons culturelles de ferment de liens sociaux entre les personnes. Et il y a une discussion qui est rapportée dans un de ses ouvrages où il regarde le monde du temple et il se demande dans quelle mesure ça peut devenir un symbole d'unité du peuple juif. Et c'était avant la prise de Jérusalem. Donc c'est intéressant de voir que finalement, chez Ahadam, il y a une conscience des symboles qui sont donnés par la loi orale, par la tradition juive, et qui sont utilisés comme levier d'action politique, même s'ils n'ont pas pour finalité... enfin voilà, ici, ils se posent la question de reconstruire le temple, mais non pas pour construire le temple et réinstituer les sacrifices, mais comme un ferment du lien social, un ciment du lien social. Et donc, il utilise beaucoup les références à la loi orale pour ces réflexions-là.
Oui. Mais, ben, en fait, oui, j'avais des remarques. Juste par rapport déjà à ce que Sylvain a dit tout à l'heure. En fait, je ne suis pas sûr que, à nouveau, qu'on puisse relier les takanotes qui sont mishum tikkun olam des sages au rôle qui est attribué au roi. Parce que tous les exemples que vous avez cités, à chaque fois, ce sont des réponses de Chazal, des institutions de Chazal, à des questions que Chazal ou que la Torah a introduites. Donc le cas du Prousboul, c'est pour sauver les pauvres qui ont besoin de prêts, mais qui ne pouvaient pas en avoir à cause de la Shemitah. Le cas de Tikkun Olam au début de Dittin, si je ne me trompe pas, c'est Takanat HaPeutot, c'est pour permettre aux enfants de 6-7 ans qui étaient orphelins de pouvoir eux aussi commercer sur les marchés. Oui, mais et pourquoi ils ne pouvaient pas le faire avant? Bah, parce que la Torah ne reconnaissait pas de kinyan, c'est-à-dire de possibilité de vendre pour un enfant. Donc, à nouveau, c'est pour répondre à une question que la halakha elle-même posait,
non,
en fait.
Non, c'est une question plutôt que qu'il y a un heurt entre la halakha et le vécu, et le vécu dans la société. Oui. C'est pas tout à fait pareil. Ab initio, ils n'auraient pas dit ça. Ils disent ça une fois qu'on arrive chez l'autre sinon, des navires, par exemple, quand ils vont faire des tagalas dans ce sens-là, pourquoi qu'on ne ferme pas la porte aux emprunteurs. C'est parce que la Torah s'exprime d'une certaine manière et qu'une fois que ça rencontre une réalité sociale, bah, ça ne fonctionne pas. Et il me semble plus qu'on est dans cette direction-là plutôt que dans la volonté de corriger à la racine.
Non, sur la phrase, la phrase là que vous venez d'énoncer, je suis d'accord à 100%, vraiment. Juste, mon point, c'est de dire que ce que je comprends des décrets du roi d'Israël, on va dire pour simplifier, c'est vraiment quelque chose que M. Zribi a énoncé tout à l'heure et que je trouvais très intéressant, c'est vraiment des choses qui relèvent du droit du travail, mais ce ne sont pas des problèmes qui se posent, ce n'est pas un heurt qui se pose, parce qu'il y a une confrontation entre la halakha et la vie commune. C'est que quand il y a une confrontation entre la halakha et la vie commune que là, il y a eu les décrets que vous avez évoqués. Mais pas, il n'y a jamais eu de décret qui arrive. Pareil, au début de Gittin, dans tous les cas, on est capable d'annuler carrément un mariage et de retirer tout ça. C'est parce que ce sont des questions qui sont posées par la halakha, elle-même, et je suis d'accord avec vous, par ses interactions avec la société. Mais ce ne sont pas des questions qui sont posées par la société seule et par toute société. Je veux dire, les Zoulous n'auraient pas eu ce problème. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est sur ce point-là que je voulais insister. C'est-à-dire que tout ce qui est attrait, soit un heurt entre la halakha et les nécessités de la vie, soit la halakha en elle-même, tout ça, il y a déjà une structure qui s'appelle soit Makin von Chinchelominadine, soit les takanot du Sanhedrin, comme on a l'habitude, les lois rabbiniques telles qu'on les connaît. Mais la spécificité du roi, c'est de pouvoir intervenir sur des choses qui ne touchent pas à la halakha, justement, mais de les ériger au rang de règles, autrement que de facto. Voilà.
Alors peut-être le lieu chez les médiévaux pour regarder... C'est pas Tikkun Olam, c'est Tikkun Medini. Tikkun Medini, qui est la manière dont les Juifs peuvent participer à pouvoir d'un roi d'Israël, qui n'est bien entendu pas, c'est pas Malchut David. Ça, c'est par ce biais que que se construit la possibilité d'un bien commun entre des communautés et un certain pouvoir. Hein? Et là, ça aussi, c'est de la matière pour tourner autour, disons, pour remplir les personnages conceptuels de chair. Parce qu'ils ne sont pas purement conceptuels. En fait, ils sont faits pour être remplis de chair. C'est parce qu'on a besoin de chair qu'on crée le personnage conceptuel.
Et vous avez des exemples de Tikkun Medini?
Est-ce que j'ai des exemples? Je pense que les exemples vont toujours puiser plus loin. Par exemple, la question des... Quand le pouvoir construit un pont, est-ce que... Et quand on va taxer les communautés pour qu'elles contribuent, peut-être le RAF peut nous dire des choses là-dessus, sur la manière dont le bien commun des Juifs et le bien commun du pouvoir étranger se rencontrent.
Je n'ai rien dit du tout.
On voit dans la RAC que dans certains cas, quand c'est, quand c'est un impôt juste, qui n'est pas à la tête du client, du point de vue à la RIC, c'est légitime.
Et c'est étonnant parce que justement, l'expression de la Gemara pour ça, c'est Dina Gemara Kipa, Dina, c'est la loi du royaume et la loi. Et c'est là, à ce moment-là, que
c'est. Samuel, tu veux de la fin pour clôture? Très.
J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de fin pour continuer encore à discuter. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être venu ce soir, de m'avoir écouté, de m'avoir donné vos remarques, vos retours, vos questions qui sont très intéressantes et qui vont beaucoup m'aider à continuer mon travail. Et voilà, j'espère que la prochaine fois... Je pourrais vous parler aussi du Kohen Gadol, du Navi.
Merci beaucoup, Samuel.